D'accord, nous allons reprendre. Donc, en tant que responsable éducatif, il m'a été demandé que vous soyez un petit peu moins dissipés parce que certains d'entre vous, dans le fond, parlent tellement qu'on n'entend pas les intervenants. C'est mal. Et je tiens à le dire que, bien évidemment, avec la généralisation de la vidéosurveillance, nous avons identifié les meneurs. Ça fait pas taire, hein, malgré tout, c'est dingue. Je suis totalement dépité. Donc nous allons continuer avec un peu de retard cette deuxième session qui va nous mener jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc le premier segment s'intitule « Prévenir, soigner, se rétablir en santé mentale » vers la continuité des catégories des interventions. Et nous avons pour commencer Nicolas Henkès qui... son évaluation capacitaire a montré qu'il ne pouvait pas rester à la tribune, donc il restera assis. Mais il va donc nous parler d'accompagner vers le logement entre psychiatrie médico-sociale et sociale. Nicolas Henkès est sociologue et chargé de recherche. Merci beaucoup. Donc, si vous me voyez me lever, c'est que j'ai dû lui faire des signes, car il m'a dit qu'il était extrêmement bavard et qu'il fallait que je le prévienne à la fin de son temps. À vous.
Oui. Bonjour à tous, excusez-moi effectivement de rester assis, mais je pense que vous me voyez, je suis suffisamment grand pour que vous me voyez depuis le fond de la salle. J'ai un tout petit peu changé de fusil d'épaule entre le moment où j'ai proposé le titre, on avait aussi discuté avec Sonia et les organisateurs, et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion qui sera sans doute assez générale, vague et peut-être même banale. Sur la contribution du médico-social, alors je vais mettre beaucoup de guillemets là, à cette question du changement dans la santé mentale aujourd'hui. Mais je vais aussi en profiter de façon, et c'est là où ça va être vraiment très vague, général et banal, pour vous proposer quelques réflexions sur cette question du changement elle-même dans la psychiatrie, dans le système de santé mentale aujourd'hui. Et alors, j'ai fait un jeu qui était de reprendre en partie les titres des sections ou des sessions de ce colloque et de remplir avec mes propres réponses. Et donc, le tout va faire 6 diapositives, ça va aller très vite. La première, donc, pour partir de la question de, au fond, pourquoi changer ? Alors, pourquoi changer ? C'était la question, encore une fois, de la session. On a déjà donné un certain nombre de réponses et elles vont se retrouver dans ce que je vais lister. Donc, j'en ai listé, je crois, 6 au total. Alors, pourquoi changer ? D'abord, parce que, alors, j'ai mis là aussi des guillemets, j'insiste sur ces guillemets, parce que la psychiatrie a été désinstitutionnalisée. Alors, le terme de désinstitutionnalisation, c'est un terme qui est très compliqué à comprendre, qui a de multiples résonances, et je ne veux pas entrer dans une discussion de ce que ça peut vouloir dire, de la critique qu'il faut en faire, et de ce qu'il faut entendre. Mais ce que je voudrais juste que vous entendiez derrière ça, c'est deux choses. C'est d'une part le fait que les institutions de la psychiatrie, et donc avant tout la grande institution de la psychiatrie, c'est l'hôpital psychiatrique, ont été sérieusement réduites en taille et en importance, mais aussi qu'il y a d'une certaine façon un sens de l'institution qui serait perdu chez les acteurs de la psychiatrie et qui causerait d'une certaine façon une perte de repère. Bon, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de guillemets et à la serpe pour cibler une zone de problème, mais qui renvoie globalement à ce que M. Darcourt évoquait ce matin, cette espèce de sentiment de, si ce n'est de désespoir, mais en tout cas de mécontentement ou d'insatisfaction chez les praticiens à l'égard de leur propre pratique. La deuxième raison pour laquelle il faudrait changer, c'est parce qu'on ne soigne plus comme avant, effectivement. On ne soigne effectivement pas comme il y a 30, 40 ans en psychiatrie. On a des médicaments, alors on les avait il y a 30-40 ans, c'est pas tout à fait les mêmes. On a de nouvelles techniques d'intervention en termes de réhabilitation psychosociale, mais aussi des techniques psychothérapie qui n'existaient pas forcément il y a 30-40 ans. Et surtout, la division du travail entre les différentes catégories des professionnels n'est pas tout à fait la même qu'il y a 30-40 ans. Le métier de psychiatre, le métier d'infirmier n'est pas le même qu'il y a 30-40 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut changer ? Parce qu'il y a aussi une nouvelle aspiration sociale. Alors ça, Alain Ehrenberg y a fait énormément allusion tout à l'heure. Alors j'en ai mis deux, mais il y en aurait beaucoup d'autres choses. Il y a tout un ensemble de nouvelles idées, forces qui organisent, disons, les façons dont on se représente, la façon dont ça devrait fonctionner dans le champ de la santé mentale. Et ça tourne autour de la question de l'autonomie, de l'individualisme. Ça tourne aussi autour de notions comme la quantification, etc. Bon. Quatrième raison qui me paraît pas suffisamment évoquée probablement dans nos discussions en santé mentale, qui tourne autour de la définition même des politiques publiques et le fait que la politique de santé mentale s'inscrit plus largement dans quelque chose qui est de façon assez générale les politiques sociales dans notre pays, et que ces politiques sociales ont fondamentalement changé. Alors le terme un peu de certains politiques, pas de tous, mais de certains politiques, c'est le terme de référentiel, c'est-à-dire que globalement, le système d'idées qui organise les politiques sociales a fondamentalement évolué depuis une trentaine d'années, là aussi, autour de cette notion d'activation des politiques sociales, mais aussi autour, assez profondément, et c'est des choses dont on n'a pas forcément suffisamment conscience, mais d'une évolution assez sensible des publics cibles de ces politiques sociales. Et ça concerne en plein la santé mentale, parce que la santé mentale évolue dans ce milieu de politique publique, et elle est fortement en interaction avec l'ensemble de ces politiques publiques. Cinquième raison, on doit changer parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui émergent. Alors encore une fois, toutes ces raisons sont parfois liées les unes aux autres. Je veux dire, il y a des choses qu'on pourrait ranger dans différentes lignes. Mais donc, il y a de nouveaux problèmes à prendre en compte dans le champ de la santé mentale. Alors, je vous ai parlé de la grande précarité, des migrants dont viennent de parler Alima et Nicolas. Je pense à un sujet qui m'a intéressé dans certaines recherches autour des jeunes adultes. Et je pense plus largement aussi à tout ce qu'entraîne la désinstitutionnalisation en termes de nouvelles trajectoires de maladies, et qui fait qu'on se retrouve avec des malades, je pense aux malades vieillissants, aux malades psychiatriques vieillissants, qui sont un problème qui sont, au fond, relativement nouveaux dans un certain sens, par rapport à, encore une fois, il ne serait-ce qu'il y a une trentaine d'années. Et dernier point, alors ça c'est un point que sur lequel je veux toujours insister, il faut changer parce que notre système de santé mentale est devenu une complexité folle. Et là aussi, je pense qu'on vit tellement dedans qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il suffit d'avoir assisté à une ou deux réunions au ministère de la Santé pour se rendre compte que la profusion de sigles, la profusion de dispositifs qui organisent notre système et dans lesquels il me semble que même nos administrations ont du mal à se retrouver. Alors, par rapport à ça, donc j'en viens à l'angle plus spécifique sous lequel je voulais aborder cette question, c'est ce qui est l'angle du logement. Dans cette deuxième diapositive, je voudrais essayer de vous convaincre que le logement, c'est un des enjeux paradigmatiques pour penser l'ensemble de ces enjeux que je viens de vous décrire. Alors, parce que dans le logement, on a tout ça qui se met en œuvre, tous ces processus, tous ces facteurs. Qui se mettent en œuvre alors de façon assez spécifique. Et donc là, je vais vous décliner ça très rapidement. Alors, il y a d'abord dans le logement de nouvelles façons d'aborder la question du logement des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et alors, j'ai résumé ça de façon un peu sauvage avec l'acronyme Un chez soi d'abord. Alors, je me suis dit, en me disant que Vincent Girard, qui n'est plus là, mais avait, enfin, le terme n'est pas de lui évidemment, mais une partie du succès de l'entreprise tient aussi au fait que, grâce à ce titre, ils ont capté une nouvelle préoccupation qui me paraît extrêmement forte aujourd'hui, le fait que un des impératifs de nos politiques sociales en termes de logement aujourd'hui, c'est de mettre les gens chez eux. Et donc voilà, on a là une nouvelle aspiration qui organise fortement ce qu'on attend d'une bonne politique, d'une solution au problème du logement dans le champ de la santé mentale. On a d'autre part, je vous l'ai dit sur cette question de santé, de politique publique, on a un phénomène qui est là aussi extrêmement massif et qui est en train de se produire, qui est un glissement des politiques de santé mentale et des politiques du logement vers un rapprochement de l'un dans l'autre, dans le sens où, de plus en plus, on a un problème qui émerge à l'intersection des deux, mais parce que d'un côté comme de l'autre, les politiques ont évolué pour faire émerger ce problème, qui est la gestion de toute une masse de personnes qui ont des difficultés d'habiter, qui ont des difficultés à être logées, et avec une enfin, et ces difficultés ayant une dimension fortement psychiatrique. Donc là, ce problème-là, il n'émerge pas du fait qu'il y a naturellement ces personnes dans le système social. Je veux dire, les problèmes publics sont jamais le reflet naturel d'une réalité sociale, mais parce que, encore une fois, on a eu un glissement des politiques du logement et de santé mentale qui aboutit à faire émerger à leur convergence, ce problème. On a, troisième point que je voulais souligner, une démultiplication des acteurs, donc ça renvoie à cette idée de complexité de tout à l'heure. On est dans un champ sur l'accompagnement vers le logement, dans le champ psychiatrique, où on a encore une multiplicité, mais alors incroyable, d'intervenants autour de l'accompagnement, l'intermédiation locative, autour du logement social. On a les acteurs du médico-social à proprement parler, certains acteurs du sanitaire, on a des acteurs du social, des acteurs de la grande précarité, éventuellement des migrants, etc. Donc, et la liste est loin d'être exhaustive. D'ailleurs, je serais absolument incapable de vous faire une liste exhaustive des acteurs du champ. On a, troisième point, une remise en cause des référentiels des politiques. Alors, il y a un point que je trouve extrêmement frappant pour m'être un peu intéressé à la question, c'est le brouillage auquel on en arrive aujourd'hui de la distinction entre hébergement et logement, où, enfin, d'abord, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'il y avait simplement une distinction, à quel point ça m'a semblé brouillé dans la façon dont les acteurs pouvaient en parler. Et donc là, on a, encore une fois, une espèce de grand chambardement dans ces référentiels. Et une dernier point, qui est propre au champ du logement, il me semble, dans le champ de la maladie psychiatrique ou de la santé mentale, qui est la difficulté de penser des standards d'intervention, des standards aussi de qualité, j'ai envie de dire, de qualité des interventions. Autour de questions simples, en fait, qui sont simples à écrire, mais extrêmement complexe à résoudre, autour de simplement qu'est-ce que ça veut dire être chez soi. Alors, il y a quelques réponses dans les rapports, dans les travaux de Vincent Girard, mais je suis pas sûr qu'elles épuisent complètement le problème. Qu'est-ce que ça veut dire être bien logé? Là, c'est toute la dimension aussi des logements plus ou moins insalubres qui sont pas de bons logements pour diverses raisons. Bon. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi changer, comment changer? La deuxième question du colloque. Alors là aussi, c'est là où je vais vraiment dire des banalités un peu sociologiques de base, mais pour au fond attirer l'attention sur le fait que la question du changement, c'est pas une question aussi simple qui peut y paraître. Alors la première remarque que je voudrais faire, alors j'ai écrit de façon un peu énigmatique, mais le changement problème ou processus, une façon peut-être plus simple de le dire, c'est la blague que j'ai toujours avec mes collègues historiens, qui est que pour un sociologue, le changement c'est un problème. Comment est-ce que les choses changent? C'est un problème de comprendre, voilà, quels sont les facteurs, quels sont les processus qui fait que les choses changent. Pour un historien, c'est vraiment pas un problème. Le changement, c'est la nature même de l'histoire. Je veux dire, il y a du temps, donc il y a du changement. Et au fond, disons que ces deux visions du changement, changement comme problème ou changement comme processus auquel qui va se passer quoi qu'il arrive, ça recouvre probablement deux facettes de l'affaire. Le fait que il y a tout un ensemble de changements qui surviennent, qui nous arrivent, qui n'ont pas besoin de nous pour arriver, j'ai envie de dire, qui surviennent tout seuls. Mais il y a aussi tout un ensemble de processus de changement qui sont très probablement organisés, suscités, stimulés par des acteurs sociaux. Et évidemment, alors là où la confusion est souvent là, c'est qu'une bonne partie des actions qu'on prend en pensant organiser le changement souvent vient simplement mettre un peu de règle dans des changements qui sont déjà survenus. D'une certaine façon, l'action publique est assez régulièrement vient après le changement. Donc la question est de savoir à quel moment on en est du processus de changement et quel type d'intervention on peut avoir sur lui. Alors, les remarques suivantes tournent autour de la question de l'innovation dans la question du changement, parce que, et ça fait écho à ce que, enfin, j'entends en écho ce que disait Monsieur Darcourt tout à l'heure, l'innovation comme grande valeur et parce que ça va amener du changement. Bon, il me semble qu'il faut pousser un peu la réflexion un peu plus loin pour d'abord se poser la question de savoir si l'innovation est toujours au service du changement, si une innovation introduira toujours du changement. Et c'est une question qui est... Enfin, il y a de nombreux exemples, et je voudrais en prendre un qui est un peu éloigné dans le temps pour vexer personne, même s'il y a... Enfin, ça risque de vexer quand même du monde, mais je pense à quelque chose comme la psychothérapie institutionnelle dans les années 50, on peut, il me semble, on peut faire l'argument que ça a été inventé pour, d'une certaine façon, revitaliser une institution qui était déjà là, et donc pas la transformer fondamentalement, mais simplement lui redonner un peu de lui faire retrouver un peu de sa vie primitive, si je peux parler comme ça, un peu comme dans cet adage maintenant passé dans, qui est devenu un lieu commun du guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. On a quand même tout un ensemble d'innovations qui sont au service de la permanence. Ça, encore une fois, je dis ça sans aucun jugement de valeur, parce qu'on n'est pas obligé de se dire qu'il faut absolument que tout change. Bon. Maintenant, si on prend des innovations qui apportent des changements, la question de la relation entre l'innovation et le changement n'est pas non plus aussi simple qu'il pourrait paraître. On a d'abord tout un ensemble d'innovations qui paraissent être des innovations parce qu'elles portent de nouveaux modèles, parce qu'elles portent une nouvelle rhétorique, mais qui en fait s'incarnent dans des pratiques, des dispositifs qui ne sont pas spécialement innovants. Et là, je me ferai peut-être vraiment des ennemis, encore qu'il est parti, mais dispositif un chez soi d'abord, au fond, dispositif d'accompagner des personnes dans des appartements qu'on leur sous-loue, voilà, et pas une innovation en vérité si radicale que ça, si on pense à des pratiques antérieures autour des appartements associatifs qui existaient dans le champ médico-social et sanitaire. Donc on a des innovations qui sont porteuses de changement, mais en termes de référentiel beaucoup plus qu'en termes de pratique. On a d'autre part, on pense à l'innovation, un des gros problèmes qu'on a souvent, c'est de se dire que l'innovation va apporter spontanément des changements, mais en fait, une grande partie des changements qui peuvent accompagner une innovation ne viennent pas tant de l'innovation elle-même, mais plutôt de ce qui va venir après, dans la phase d'implémentation et de généralisation de l'innovation. Et je pense qu'un des gros défis auxquels est fait, je reste sur mon exemple du chez soi d'abord, un des gros défis actuels de cette expérience, c'est précisément ça, c'est de révolutionner véritablement le système et de s'implanter sur l'ensemble du territoire. D'autre part, dernier point, on a aussi tout un ensemble de changements qui proviennent non pas tellement de l'innovation, mais des conséquences de l'innovation. Et je pense, et ça va faire ma transition vers mon point suivant, tout ce qui est suscité par la survenue d'innovation dans le champ médico-social, 5 minutes, parfait. Tout ce qui est suscité par une innovation médico-sociale dans le champ sanitaire, tout ce que ça suppose d'adaptation des pratiques sanitaire quand vous avez une innovation, donc comme le chez soi d'abord par exemple, ou comme d'autres innovations du même type autour d'appartements gouvernés, associatifs, etc., qui vont apporter des modifications de pratiques chez les acteurs du sanitaire, parce qu'il va falloir développer de nouveaux types d'accompagnement des personnes dans ces domiciles, parce qu'il va falloir aussi développer des pratiques d'orientation, etc. Alors, je vais passer sur le point sur une grosse question du changement qui est le changement à grande échelle, parce que quand on parle d'innovation, on parle souvent de choses assez micro, et la vraie question qui se pose en vérité, qu'on se pose dans ce congrès depuis le début de la matinée, c'est une transformation du système. Alors, et je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'outils à la fois intellectuels et régulatoires pour penser le changement à grande échelle. Bon. Le dernier point aussi que soulève la question du changement, c'est au fond l'évaluation ou de rendre compte du changement. L'exemple des pratiques de logement est là aussi un très bon exemple. On a une myriade de pratiques, je l'ai dit, mais on a très peu de pratiques d'évaluation parce qu'on a simplement très peu de statistiques sur l'organisation du système. Et en fait, c'est un problème qui est assez généralisé dans le système de santé mentale, notre système de santé mentale. C'est la pauvreté, ou en tout cas l'écart entre la qualité des données qu'on aimerait pouvoir avoir et l'état du système. Et du coup, de ce simple fait-là, la difficulté de mesurer ce que pourrait être, et ce que devrait être, et ce qu'est effectivement un changement. On a quelques idées sur la façon dont les choses se sont passées du côté du sanitaire, mais si on prend le champ de la santé mentale dans son ensemble, une évaluation de simplement la part que prend aujourd'hui le médico-social dans la prise en charge de la santé mentale est une chose très difficile à évaluer. Alors après ça, j'avais une diapositive qui est un petit peu plus compliquée, du coup, que je vais être en difficulté de vous faire dans le détail, qui était de creuser mon exemple du logement et de vous faire une histoire très raccourcie de la façon dont précisément cette question a évolué et a fait changer le système. La question, encore une fois, que je me pose, c'est de savoir quel facteur de changement ou quelle réponse au changement on peut trouver dans l'émergence, le développement, le déploiement de ce secteur médico-social depuis une quarantaine d'années. Alors, et cette histoire du logement, c'est une histoire qui me paraît assez exemplaire de ce qui a pu se passer. Très, très gros trait, en fait, si on résume, disons, les 40 dernières années, la façon dont la question du logement s'est posée à l'intersection du sanitaire et du médico-social, on peut diviser cette période en trois grands moments. Alors, le premier grand moment, ce serait les années 70-1980, qui correspondent à l'invention du médico-social tel qu'on l'a aujourd'hui, et qui, spécifiquement sur la question du logement, a pris cette question par le biais de l'hébergement. Par le biais de l'hébergement, avec notamment tout un mouvement pour la création de foyers pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques, mais de foyers qui ne soient pas des foyers thérapeutiques, comme on disait dans la circulaire de 1960, si vous regardez la circulaire de 60 sur le secteur, il y avait les foyers thérapeutiques, mais des foyers à caractère, alors on inventait un peu les choses, donc les termes ne sont pas stabilisés, mais à caractère social ou médico-social pour des personnes, en tout cas des foyers non sectorisés. Ça, c'est un aspect des années 70-80. L'autre grand aspect, si on regarde ce qui se passe en 70-80, c'est, et ça vaut pour l'ensemble du handicap, un ratage, disons, sur la question de l'adaptation au logement, et notamment donc de la question du chez-soi, de la possibilité de fournir des soins aux personnes à domicile. Donc, si vous voulez, la question du logement, telle qu'elle est problématisée dans les politiques publiques, mais dans le débat à ce moment-là, dans les années 70-1980, va tourner autour de l'hébergement. La période suivante, alors j'ai rajouté deux lignes sur foyer, appartement et lieu de vie, mais on va passer rapidement. La période suivante, années 90-2000, il y a un mouvement qui va se passer autour, alors qui va beaucoup partir de la psychiatrie, et qui va partir de la question, au fond, et dans la foulée de la désinstitutionnalisation, du logement thérapeutique, c'est-à-dire la capacité des équipes psychiatriques d'apporter des thérapies au domicile des patients, mais plus largement la capacité de transformer le logement comme un lieu thérapeutique. Donc on va inventer l'accompagnement au logement, et ça accompagne de façon plus générale une montée qui va se concrétiser au début des années 2000 de l'aspiration à l'autonomie chez les personnes, et qui va nourrir cette volonté de distinguer d'une certaine façon lieu de vie et lieu de soins. La distinction lieu de vie, lieu de soins, c'est un article de Gilles Vidon dans l'Encyclopédie médico-chirurgicale en 95, et c'est au cœur de ce moment années 90-2000. Année 2010, troisième moment. Il me semble que ce qui s'invente et ce qui est toujours en train de s'inventer, c'est quelque chose d'une nature assez profondément différente qui tourne autour de, alors j'ai résumé ça aussi de façon un peu brutale, comme l'accompagnement vers le logement, et qui tourne, il me semble, actuellement autour de deux grands débats qui tournent d'un côté les locataires et notamment du parc social en difficulté, et de l'autre côté l'accompagnement vers le logement, donc le chez-soi d'abord, mais qui concerne beaucoup plus que simplement les SDF qui sont au cœur du programme chez-soi d'abord, mais qui concerne, qui est cette idée du droit au logement au fond de l'ensemble des populations, et le droit au logement devant primer sur le fait d'avoir les soins adaptés pour pouvoir habiter un logement. Ça correspond de façon aussi politique au dispositif du DALO, le droit au logement opposable. Donc l'idée qu'on a un droit imprescriptible qu'il va falloir accomplir pour les personnes. Alors dans tout ça, c'est ma dernière diapositive. Je sais que j'ai déjà dépassé un tout petit peu. C'est ma dernière diapositive. Si on fait le bilan de cette histoire, le médico-social, facteur ou réponse au changement, les réponses sont loin d'être univoques. Quelques points, très rapidement. Le premier point, c'est il y a quelque chose qui s'est quand même passé autour de l'émergence du médico-social, dans le sens où on a une nouvelle réponse qui s'est imposée, alors par rapport à une situation antérieure où tout ça n'existait pas, qui s'est imposé à un nouveau problème qui est cette question du logement. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'un succès d'un modèle. On a le médico-social comme, au fond, une nouvelle réponse à la question de l'accès, de l'accompagnement dans, l'accompagnement vers le logement dans le champ de la santé mentale. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut quand même constater, c'est le fait que ce secteur médico-social, il correspond pas à un ensemble de pratiques extrêmement organisées, structurées, institutionnalisées. On a un secteur qui en fait couvre une vaste masse de pratiques, d'expérimentations aux frontières extrêmement floues, et qui est un bouillonnement, mais qui pose continuellement, il me semble, le problème précisément de leur implémentation ou de leur institutionnalisation. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, c'est que la solution à ça, c'est aussi qu'on a un médico-social qui s'organise à plusieurs vitesses, avec d'un côté un secteur fortement institutionnalisé et qui, lui, est au fond, autour des grandes institutions et souvent porté par les grandes associations, s'organise beaucoup autour de modèles institutionnalisés qui, eux, en termes d'innovation, sont difficiles à faire bouger. On a ce secteur-là versus un secteur qui est beaucoup plus innovant et mobile, alors qui parfois est porté par les mêmes associations, mais pas toujours, et qui va être à la pointe de ces innovations et qui va porter, au fond, ces nouveaux modèles et qui va imposer, notamment pour beaucoup, ces représentations. D'où un décalage, au fond, dans le secteur médico-social entre un certain nombre de représentations, et je pense notamment autour du droit au logement, etc., et un certain nombre de pratiques qui sont issues de ce segment plus institutionnalisé du médico-social, qui vont tourner autour de formes d'intervention qui vont être, encore une fois, beaucoup plus institutionnalisées. Alors, le quatrième point que je voulais souligner dans ce bilan, c'est, dans toute cette histoire centrée sur le médico-social, évidemment, la question, c'est la coopération avec le secteur sanitaire, et c'est le point auquel je vous renvoyais tout à l'heure, le fait qu'une innovation, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit aussi... Enfin, elle doit aussi susciter une certaine transformation dans le milieu dans lequel elle va s'insérer. Et la question des coopérations aujourd'hui entre le médico-social et le secteur sanitaire est évidemment un enjeu clé des politiques actuelles. Et le dernier point que j'ai aussi souligné tout à l'heure, c'est la question de la difficulté de mesurer la... concrètement, au fond, du fait de ce flou qui organise le médico-social, de mesurer vraiment les pratiques et le changement qu'elles ont éventuellement apporté. Alors, j'avais une diapositive de conclusion qui va être extrêmement rapide, mais le seul point sur lequel je voudrais insister, au fond, c'est la dernière question sur laquelle j'ai pas fait allusion, mais qui était derrière une grande partie de mon propos. La question du changement, en fait, aujourd'hui, elle est évidemment au cœur de nos préoccupations. On a l'impression de vivre dans un monde qu'il faut changer, pour tout un ensemble de raisons, alors qui dépasse largement la santé mentale. La question qu'on pose peut-être pas suffisamment, c'est de savoir aussi s'il est bon forcément de changer, et si le changement viendra ou pas au service d'un progrès, ou en tout cas d'une amélioration de la situation des individus. Et cette question-là, il me semble que on a beaucoup de mal à la poser, parce que on se donne pas forcément les moyens de la poser en pensant le changement comme une valeur en soi, l'innovation comme une valeur en soi, mais aussi parce que d'un autre côté, les outils de mesure qui permettraient d'évaluer le bénéfice éventuel d'un changement sont pas non plus là, comme j'ai essayé de vous le dire à plusieurs reprises. Je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup. Donc, on est en retard, mais on a toujours le temps pour une remarque, une question. Quelqu'un veut-il intervenir ? Sur la notion de progrès. Il y a tout un débat quand même à l'heure actuelle sur la notion de progressisme et la notion de progrès. Personne ?